RFI. Grand reportage.
Le Sri Lanka traverse la pire crise économique et politique de son histoire. À court de devises étrangères, endetté à plus de 46 milliards d'euros, le pays s'est déclaré en faillite. Fortement dépendant de l'extérieur, le gouvernement navigue à vue et n'arrive plus à se procurer du carburant, du gaz ou des médicaments. Même des produits courants commencent à manquer. Le président Rajapaksa, devenu la bête noire de tout un pays, s'accroche au pouvoir. La population oscille entre désarroi, colère et résignation. Beaucoup aspirent à une rupture totale avec un système jugé corrompu et inefficace. Le Sri Lanka au bord du gouffre, mais debout, un grand reportage de Yelena Tomic.
Nous sommes à Slave Island, l'île aux esclaves, un des plus vieux districts de la capitale sri-lankaise. Cette presqu'île, au sud du fort de Colombo, est menacée de destruction. Ses habitants font tout pour résister aux promoteurs et investisseurs étrangers. Une douzaine de gratte-ciel ont déjà vu le jour à proximité de ce quartier pauvre où vivent en harmonie tous les groupes ethniques et religieux du pays. Mista, 53 ans, habite le quartier depuis toujours.
Ma vie est bien triste. Le coût de la vie est très élevé. En fait, je suis guide, mais comme il n'y a plus de touristes, je suis devenu chauffeur de tuk-tuk pour survivre avec mes trois enfants. Il est possible de gagner entre 2000 et 3000 roupies, mais comme le prix du carburant a augmenté, les clients se font rares. Et puisqu'on doit faire la queue une heure, deux heures pour le plein, je n'arrive à gagner que 400 roupies. C'est vraiment dur. Si vous me demandez si j'ai assez pour manger, je vous répondrai que non. Tout ce que je gagne, je le dépense pour nourrir ma famille et je retourne travailler. Quand vous rentrerez dans votre pays, racontez comment on vit ici, comment la vie est difficile.
Et vous pensez quoi de Rajapaksa ?
Les gens espéraient avec lui des changements, mais ça n'est pas arrivé. À la place, ils ont endetté le pays. On est en faillite. Oui, il y a beaucoup de corruption ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous allez où ? Si vous voulez, je peux vous emmener avec mon tuk-tuk.
Cela fait près de trois mois que le Sri Lanka est secoué par une vague de contestations. Des manifestations pacifiques pour exiger le départ de ses dirigeants ont parfois basculé dans la violence. Mais le président Rajapaksa refuse de quitter le pouvoir. Un gigantesque campement s'est installé sur la place Galeface devant le palais présidentiel. Se rassemblent pour manifester, partager un repas, échanger. Des tentes abritent une bibliothèque, un centre médical, des tribunes. Tous ici, jeunes syndicats, moines, anciens combattants de la guerre civile, viennent débattre, apporter leur pierre à l'édifice pour une société meilleure. Roshan Yahya, 40 ans, blessé à la jambe lors de violents affrontements avec la police le 9 mai dernier, est un militant pacifique de la première heure.
La situation n'est pas bonne dans le pays, on le voit tous. Aujourd'hui, c'est un désastre. Si on ne bouge pas, rien ne changera. C'est à nous d'agir. Il y a dans notre pays énormément de malversations et de corruption. Ces pratiques existent depuis des années. Mais pour diverses raisons, nous avons laissé faire, en nous disant que les choses iraient mieux un jour. Mais on voit bien que la situation empire. Aujourd'hui, notre pays n'a pas de plan pour stabiliser la situation financière. Prendre un nouveau crédit n'est pas la solution. À court terme, peut-être, pour régler certaines choses, comme acheter du carburant. Mais à long terme, on doit trouver une solution adaptée.
Mais comment faire ? Le Sri Lanka est en défaut de paiement.
Nous devons d'abord éradiquer la corruption. Nous avons des gens capables, mais ils ne veulent pas prendre le pouvoir dans un système totalement corrompu qui fonctionne comme une mafia. Lorsque de nouveaux visages se lancent en politique, ils sont menacés. C'est pourquoi nous devons nettoyer la scène politique de tous les hommes corrompus. Ensuite, nous importons plus que nous exportons. On doit régler ce problème. Notre pays regorge de ressources naturelles. On peut aussi davantage développer le tourisme. Nous tirons surtout des revenus de l'exportation de l'industrie textile. Mais nous pourrions exporter beaucoup plus de choses.
Quelles Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce mouvement ?
On ne discrimine personne ici. On est tous frères et sœurs. Nous éprouvons un sentiment de liberté, une liberté que nous n'avons pas eue pendant si longtemps. Nous avons eu 30 ans de guerre civile. Cette guerre, on aurait pu l'éviter en partageant amour et respect. Ça m'émeut beaucoup d'en parler. C'est pour ça qu'on se bat. Nous n'accepterons plus jamais d'être divisés par les politiciens pour leurs propres bénéfices. Et c'est la raison pour laquelle cette lutte, ces manifestations sont si fortes. Nous voulons l'unité, la paix entre nos communautés. Tamouls, Singhalais, bouddhistes, chrétiens, musulmans, tous font partie de ce pays et tous ont des droits, le droit de s'exprimer, de manifester. Nous nous battons pour avoir cette indépendance et cette liberté de manière durable.
En attendant l'avènement d'une société nouvelle, le pays s'effondre et mise beaucoup sur l'aide internationale. Nous avons rendez-vous au ministère de la Santé avec le docteur Anver Hamdani. Il est chargé de coordonner les dons pour assurer la continuité des soins. Les stocks de médicaments et de matériel chirurgical commencent dangereusement à manquer.
Nous avons identifié trois catégories de médicaments qui sont bientôt en rupture de stock. Les médicaments vitaux, essentiels et ordinaires. Les gens qualifient la situation de crise politique ou d'échec, je préfère parler de défi. Et notre intention première au ministère de la Santé, c'est de limiter la souffrance de la population. Chaque jour, en ambulatoire, les hôpitaux du pays reçoivent environ 75 000 patients. En hospitalisation, c'est de l'ordre de 12 000 personnes. C'est énorme et tous ces patients sont soignés gratuitement. Si ces médicaments étaient produits ici, on aurait pu gérer la situation, mais ils sont importés.
Et qui sont vos principaux donateurs aujourd'hui ?
La Banque mondiale, la Banque asiatique de développement sont en contact avec l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux États et organisations sont prêts à nous aider, mais nous devons d'abord liquider les lignes de crédit et ça va prendre du temps. Pour les médicaments vitaux, nous avons déjà reçu des promesses de dons. L'Indonésie, le Bangladesh, Singapour, la Thaïlande, le Pakistan et surtout l'Inde nous aident, mais aussi le gouvernement français qui vient de nous envoyer des traitements d'une valeur de plus de 100 000 dollars. Cela va couvrir nos besoins pour les trois prochains mois. Ce que nous disons à tous les donateurs, c'est de payer directement les fournisseurs. C'est plus efficace. Si tous ensemble nous œuvrons en faveur d'une cause commune, le bien de la population et des patients, je pense que nous réussirons. Notre priorité, c'est de délivrer une couverture médicale à tous, sans marginaliser personne.
À quelques pâtés de maison du ministère de la Santé se trouve le Lady Ridgeway, l'hôpital pour enfants. C'est le premier établissement de santé à avoir lancé un SOS en publiant la liste de pas moins de 50 médicaments en rupture de stock. Devant l'hôpital, une mère de famille presse le pas en tenant sa fille par la main. La petite porte un sac en plastique rempli de grosses boîtes de médicaments.
Ma fille s'appelle Yenuli Jimsarani, elle a 7 ans. On est venu chercher des médicaments car elle souffre d'épilepsie, comme mon fils Chachen qui a 4 ans. L'hôpital n'a pas ce médicament en stock, on doit se débrouiller pour en acheter à la pharmacie. Ça coûte très cher, 20 000 roupies. Mon mari travaille dans le bâtiment, mais il ne gagne pas assez pour qu'on puisse acheter ces médicaments. C'est les amis et la famille qui nous aident. Heureusement qu'ils sont là, car sans eux, ma fille qui est malade depuis 5 ans ne pourrait pas se soigner. Quand mes enfants sont malades, je me précipite dans un tuk-tuk et je vais à l'hôpital. Mais même pour ça, je dois emprunter de l'argent à des amis ou des voisins.
50 euros pour des médicaments qui devraient, en situation normale, être délivrés gratuitement représentent une fortune pour cette famille de la banlieue de Colombo. Beaucoup d'autres vivent aujourd'hui, comme elle, dans l'angoisse du lendemain. En 2019, pour faire des économies, le président Gotabaya Rajapaksa interdit les engrais chimiques. De nombreux agriculteurs se retrouvent avec une énorme perte de rendement, une chute de près de 40%. Toutes les cultures sont impactées, y compris le riz, l'aliment de base au Sri Lanka et dont toute la production est destinée au marché national. À une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale, à Ouarakapolé, en bord de route, un homme entretient les petites digues qui retiennent l'eau entre les parcelles d'une petite exploitation de riz. Courbées, les jambes trempées dans l'eau boueuse jusqu'aux genoux, trois femmes procèdent au repiquage des plants. Des petites touffes vertes sont implantées à espaces réguliers. Swarnalatha a 50 ans, le visage ridé, le corps abîmé par une dure vie de labeur.
Je gagne 2000 roupies par jour, mais je ne travaille que 4 ou 5 mois pendant la période des semis. Et oui, on a remarqué une baisse de la récolte. Avant, on récoltait 20 bushels, environ 500 kilos. Maintenant, c'est plutôt entre 250 et 350 kilos. Mais vous pouvez demander au propriétaire ce qu'il en pense. Tenez, il vient juste d'arriver derrière vous. Pour cette saison, on n'a pas reçu d'engrais. Les pénuries touchent aussi les engrais organiques azotés et le prix d'un kilo d'urée coûte aujourd'hui 800 roupies. Je viens de Mayanganawa et je travaille ici depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai trois enfants, mon mari est maçon et comme il y a une pénurie de ciment, il ne travaille pas. Mon fils aîné est marié, il vit à Kandy, mais lui non plus n'a pas de travail, il ne peut pas nous aider.
Et que pensez-vous de l'avenir ?
Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile de vivre. J'ai peur de ne plus pouvoir nourrir mes enfants pour l'instant. On arrive à manger trois fois par jour, en général du riz et du curry, mais tout augmente. On ne peut acheter que deux légumes, pas plus. Les enfants me demandent parfois de leur acheter des biscuits, mais je ne peux pas, c'est trop cher.
Lionel Rajapaksa, propriétaire de la rizière, s'impatiente. Il veut nous parler. Casquette sur la tête, vêtu d'un sarong et d'une chemise turquoise, cet homme de 68 ans nous présente fièrement son exploitation, héritée de son père.
Il y a 40 parcelles ici de 25 mètres carrés environ, et nous arrivons à récolter 30 bushels, soit 750 kilos de riz. On raconte qu'il y a des problèmes depuis l'interdiction des engrais chimiques, mais nous, on n'a pas ce problème. Cultiver avec du compost organique revient moins cher et on n'a pas de problème de parasites. Le grain est plus gros et entier et on a moins de gaspillage. Alors qu'avec les fertilisants chimiques, on est obligé d'en ajouter régulièrement sur les cultures. Et puis j'ai réussi à me procurer pour cette saison de l'engrais organique. Il est mieux absorbé par le sol, les grains conservent les substances nutritives, alors que l'engrais chimique reste en surface et les plants flétrissent.
Alors comment expliquez-vous que certains agriculteurs se plaignent d'une chute de leur production ?
C'est une manipulation politique, rien d'autre. Les extrémistes politiques utilisent les médias pour manipuler la population. La plupart des rizières se trouvent à Polonnaruwa et Anuradhapura, dans la province centrale du Nord. En réalité, je vous le dis, 80% des agriculteurs se font des bénéfices grâce au passage du chimique au bio. Et seuls 20% protestent pour dire que ça ne marche pas.
Mais finalement, Rajapaksa a dû faire marche arrière sur le tout bio. Et le pays est menacé de famine, d'après l'ONU. Qu'en pensez-vous ?
Je suis un sympathisant de Rajapaksa. J'ai voté pour lui. Le président veut développer le pays, mais il est mal conseillé par les membres de son parti. Avant l'arrivée des Rajapaksa au pouvoir, on ne vivait pas bien. Quoi que l'on puisse raconter, c'est grâce à eux que nous avons mis fin à la guerre civile de 30 ans et que nous avons commencé à développer le pays. Tous ceux que vous voyez manifester en ce moment sont en fait des gens qui courent après l'argent. Aux prochaines élections, j'en suis sûr, Rajapaksa réussira à remporter assez de voix.
Sur la route, nous menons à la ville sacrée de Kandy, dans le centre du pays, toujours les mêmes scènes, comme à Colombo. Des stations-service prises d'assaut par les conducteurs pour remplir de quelques litres seulement leurs réservoirs. Car les prix du carburant et du diesel augmentent chaque jour. Même file d'attente pour se procurer du kérosène pour alimenter leur cuisinière domestique. Car pour certaines familles, le gaz est devenu beaucoup trop cher. Nous arrivons à Gampola, où se trouve une plantation et l'une des plus anciennes fabriques de thé au Sri Lanka, Storfield, créée par un Écossais en 1936. Ici, le thé est bio. La plantation n'a donc pas été impactée par l'interdiction des fertilisants. Mais la désertion des touristes a aggravé la pénurie de devises et entraîné une forte hausse du chômage. Tilini a 24 ans, elle travaille comme guide touristique dans la plantation. Vêtue d'un élégant sari rose, elle nous accueille avec un large sourire.
On n'exporte plus du tout notre thé. Nous le vendons uniquement sur le marché local. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué avec tous les problèmes. Notre production a beaucoup chuté, entre 40 et 50%. Et puis, on a très peu de touristes. Ces derniers jours, seuls deux groupes nous ont rendu visite. C'est deux fois moins que d'habitude. Ça fait baisser les profits et les salaires aussi. Dans cette usine, il y a 100 employés en temps normal. Aujourd'hui, seules 25 femmes travaillent dans la plantation et l'usine, car il n'y a plus d'argent pour verser les salaires. Elles gagnent 1000 roupies par jour pour 8 heures de travail. Les autres sont au chômage technique, elles n'ont plus de travail. Moi, je ne travaille plus que 20 jours par mois. Ce gouvernement est mauvais pour le Sri Lanka. Nous sommes débordés de problèmes. Ils sont vraiment trop mauvais et ne font rien pour régler nos problèmes quotidiens. Le prix des transports en commun a doublé, par exemple.
Beaucoup de jeunes pensent à quitter le pays. C'est votre cas aussi ?
Oui, j'y pense. J'aimerais aussi partir à l'étranger. J'aime beaucoup l'Australie et le Canada. J'étudie le management en ressources humaines. Dès que j'aurai mon diplôme, j'essaierai de partir pour l'Australie. Et tous mes amis sont comme moi. Ils ont tellement de problèmes. Ils aimeraient aussi partir, peut-être dans un pays européen.
Comme Tilini et ses amis, des dizaines de milliers de jeunes tentent leur chance ailleurs. La grande majorité partent dans les pays du Golfe, au Qatar ou aux Émirats arabes unis. Ces trois derniers mois, plus de 100 000 migrants sont partis travailler à l'étranger. Une hausse spectaculaire de 286% en comparaison à l'an dernier. Nous retrouvons à Kandy Mirshad Bachman, 38 ans. Ce musicien, chanteur et entrepreneur a participé à plusieurs manifestations dans sa ville natale et à Colombo.
Beaucoup veulent partir d'ici, c'est vrai. Mais un grand nombre de mes amis veulent changer le pays. Quand on regarde, le monde entier va mal. Partout, il y a des problèmes qui sont au final créés par l'homme. Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan ou en Syrie et ce que les gens subissent là-bas, je me dis qu'on est finalement dans une situation moins grave. Dans nos chansons, on parle beaucoup de la guerre, de l'injustice et de tout ce qu'endure notre pays. Mais pour résumer, notre sujet de prédilection, c'est la liberté. La liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de croire ou d'être athée. Je remarque qu'il y a en ce moment un regain de liberté d'expression. Avec la chute du dictateur et de sa famille, enfin ce n'est pas encore fait, mais ce n'est qu'une question de temps, il y a eu dans le pays un réveil artistique aussi, une révolution culturelle en même temps que populaire. Et je trouve ça fantastique. C'est un peu triste qu'on ait dû tomber si bas pour que les gens ouvrent enfin leurs yeux, mais la révolution est en cours. Je pense aussi que le Sri Lanka donne l'exemple à d'autres pays de la région sur ce que le peuple est capable de faire. Mais nous sommes dans une situation imprévisible qui peut tourner dans un sens ou un autre. On doit juste continuer notre combat. Nous ne voulons plus de voyous au pouvoir. Nous voulons une justice libre et équitable pour tous. Si vous avez volé, vous devez en assumer les conséquences. Je voudrais dire ceci. Croyez en vous. Développez vos capacités. Transmettez vos connaissances autour de vous. Tous ensemble, nous y arriverons.
Notre voyage se termine à Galeface, la place où tout a commencé il y a près de 3 mois. Un cortège d'opposants portant des drapeaux noirs défile poings serrés en criant « Gotha, va-t'en ! » Des dizaines de milliers de personnes, toutes communautés ethniques et religieuses confondues, jeunes, vieux, militants ou citoyens ordinaires. Des Sri Lankais profondément attachés à leur pays qui veulent aujourd'hui tourner la page, se débarrasser d'une classe dirigeante considérée comme la cause de tous leurs maux et donner la chance à une nouvelle génération qualifiée qui saura sortir le pays du piège de la dette.
Le Sri Lanka, un pays au bord du gouffre, mais debout. Un grand reportage signé Yelena Tomic, réalisation Pauline Leduc.